Bonjour, nous sommes à Nice pour notre émission « Comment va ton âme ?» avec votre serviteur, le frère Paul-Marie Catelinet. Alors, si vous étiez là la semaine dernière, vous vous souvenez que on a commencé à regarder les évangiles en essayant d'étudier l'attitude de Jésus par rapport aux enfants. Et vous vous souvenez que on avait repéré quatre types de textes qu'on peut d'ailleurs décomposer en deux catégories. Donc la première catégorie, c'est une attitude positive envers les enfants, et même plus que positive, puisque Jésus en fait une figure primordiale pour entrer dans le royaume des cieux. Et puis il y a une autre catégorie de textes qui n'en rassemble qu'un seul, qui est une catégorie où Jésus a un regard négatif, ou en tout cas lucide, sur les enfants, quand il rappelle que cette génération est mauvaise et qu'elle ressemble à des gamins qui jouent sur la place. Donc, il ne s'agit pas de faire de l'enfance pour Jésus un modèle psychologique. Il s'agit pour Jésus, on va le voir dans les textes positifs, on a commencé d'ailleurs, de faire de l'enfant une métaphore sur l'importance d'être petit pour entrer dans le royaume de Dieu. Et on essaie de voir ce que voulait dire cette petitesse. C'est le même thème au fond que les pauvres, et il s'agit pas simplement d'une petitesse corporelle où ce niveau inférieur n'est ni au fond ni moral ni même intellectuel, et nous avions dit qu'il était surtout pour les faibles, pour les fragiles. C'est ceux qui sont menacés, menacés par le péché et donc menacés aussi par la perdition, menacés par le désespoir, menacés par le découragement. Découragement qui vient, et selon Jésus et selon l'apôtre Paul, notamment au chapitre 14 des Romains, que je vous invite vraiment à lire, qui sont menacés par des discours, des maîtres, qui sont évidemment ceux qui se présentent comme des faux maîtres, mais enfin, par des doctrines qui empêchent à ces petits, à ces faibles, d'entrer dans le royaume des cieux. Soit parce que, selon saint Paul, ils n'ont pas compris que c'est par la foi qu'on entre dans le royaume des cieux, qu'ils continuent à enseigner que c'est par la loi, par l'observance de la loi qu'on entre dans le royaume des cieux, soit parce que l'observance qui ici est exigée, eux-mêmes ne sont pas capables, comme le dit le Seigneur, de lever du petit doigt les fardeaux sur lesquels ils font peser les gens. Et donc ces personnes, ces doctrines, ces faux maîtres, sont pour ces petits des scandales, au sens, et c'est eux qui scandalisent ces petits. Alors évidemment, nous, tout de suite, on a les scandales sexuels, etc. Et en effet, on peut très bien attribuer ce texte à tous ces criminels d'enfants. Mais c'est certainement pas la perspective de Jésus, parce que c'est pas la perspective dans l'Antiquité. Ces crimes-là ne sont pas... on en parle assez peu de ces crimes dans l'Antiquité. Dire même, on en parle, il y a pas peu de témoignages sur ces crimes. Mais le scandale ici dont il faut parler, c'est un obstacle, tu me fais obstacle, tu me le scandale, c'est veut dire ce qui empêche. Et donc les scandaleux, ce sont ceux qui, dit Jésus, ont enlever la clé de la connaissance, et à ceux qui voulaient entrer, ils les ont empêchés. Et on peut rapprocher ces maîtres de la parabole des deux aveugles, où un aveugle conduit un autre aveugle et ils tombent tous les deux dans un trou. Et voilà. Donc voilà le scandale et l'obstacle. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jésus finit ce discours de Matthieu par la brebis perdue. Dans Saint Luc, la brebis perdue, c'est à propos du fils. Vous savez, c'est le fils prodigue, la drachme perdue. Mais dans Matthieu, la brebis perdue, c'est à propos de ces hommes qui font obstacle. Et Jésus, lui, il est venu justement pour la brebis perdue, pour le fragile, le faible, qui n'ont pas cette force de suivre la loi et l'alliance. La loi de l'alliance, parce que ça leur est impossible et le Seigneur est venu les chercher, non seulement pour leur faire miséricorde, mais pour leur donner aussi son Esprit Saint, pour lui leur donner sa force, sa grâce. Donc il est vraiment venu pour eux, il est venu pour non pas pour les justes, mais pour les malades, pour les petits. Alors, on va continuer. Assez scandaleux, Jésus... j'allais dire promet, en tout cas souhaite deux sorts. Un qui paraît terrifiant, puisqu'il dit « mieux vaudrait pour eux ». Alors, mieux vaudrait pour eux quoi ? D'abord, vous vous souvenez d'avoir une meule que traînent les ânes et de leur attacher autour du cou, puis ensuite de les plonger dans la mer. Alors, voilà une image évidemment tout à fait curieuse. On lit chez certains auteurs de l'Antiquité qu'en effet, on pratiquait ce genre de condamnation à mort par la noyade. Mais enfin, donc c'est sans doute possible. Je connais un auteur, Froger, pour ne pas le citer, qui a une interprétation un peu différente et qui est intéressante. Bon, lui, il part du constat que c'est quand même très difficile de porter un homme, déjà, et c'est encore plus difficile de porter un homme qui a une meule autour de du cou, Oui, c'est ces immenses meules. Il faut un âne pour les tirer afin que ces meules tournent autour d'un axe et viennent écraser le grain de blé pour qu'il en fasse de la farine. Donc, quand même des choses très très lourdes. Et ils disent c'est quand même pas très pratique. Et en plus, il faut en plus les apporter au bord d'une falaise et les pousser de telle sorte qu'ils puissent être plongés dans la mer. Donc il dit, au fond, une lecture littéraliste de ce texte semble un peu ridicule et il veut voir plutôt une métaphore. Ça, c'est intéressant parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que la meule autour du cou, sinon faire à ce scandaleux un travail. Travail au sens étymologique du terme, c'est-à-dire pas une torture, mais enfin en tout cas un travail douloureux, difficile, pour leur faire comprendre quelque chose. Au fond, c'est l'idée de la pénitence ou de la peine qui fait comprendre à celui qui fait du mal, non seulement qu'il fait du mal, mais aussi qu'il va lui faire comprendre de l'intérieur quelque chose. Au fond, Jésus lui promet une rémission à cet homme. Il lui promet pas la mort. Mieux vaudrait pour lui. Ça veut dire mieux vaudrait pour lui qu'il ait une peine, qu'il ait une pénitence, qu'il fasse un travail pénitentiel pour se changer. Vous voyez, ça c'est intéressant. Et deuxième chose, qu'il soit plongé dans la mer. C'est-à-dire qu'il soit lui-même plongé dans l'expérience de la mort pour faire l'expérience de sa faiblesse pour que lui-même puisse mourir, que son vieil homme puisse mourir, pour qu'il comprenne que les exigences qu'il impose à tous ces petits sont non seulement non seulement sont des paroles d'hypocrite, mais surtout, et c'est là le plus grave, que ça empêche tous les petits d'entrer dans le royaume des cieux. Et le deuxième sort qu'il leur propose, c'est qu'il leur dit, il vaut mieux rentrer borgne dans le royaume des cieux qu'avec ses deux yeux, hein, ou que brûler dans la gêne. Il vaut mieux avoir une main en moins, si ta main est en train de pécher, coupe-la. Hein. Il vaut mieux entrer manchot dans le royaume des cieux qu'avec ses deux mains dans la gêne. Alors là aussi, il faut pas prendre évidemment la chose au pied de la lettre, puisque c'est Jésus lui-même qui demande à Pierre de ne pas trancher l'oreille du centurion, qui les arrête. Hein. Donc il y a pas de ici, pas de d'apologie du châtiment corporel, hein, et certainement pas une détestation du corps. Hein. Mais au fond, qu'est-ce que Jésus dit ? Il dit, il vaudrait mieux pour eux que ces gens soient boiteux ou manchots ou borgnes, c'est-à-dire qu'ils fassent l'expérience de leur propre faiblesse, de leur propre handicap, que eux-mêmes ils sont pas si normaux que cela, si je puis dire, hein. Et qu'eux-mêmes ils fassent l'expérience de leur propre faiblesse, hein, pour pouvoir ensuite être des maîtres de sagesse, pour pouvoir ensuite annoncer le royaume des cieux. Ben, il vaut mieux d'abord qu'ils fassent l'expérience de leur vulnérabilité, pour rentrer dans le royaume des cieux. Il vaut mieux rentrer petit, fragile dans le royaume des cieux que se croire, puisque c'est que se croire extrêmement fort, hein, et périr dans son orgueil, hein, c'est-à-dire dans une telle satisfaction de soi, dans un tel enivrement de sa propre excellence, que on n'a plus besoin de Dieu et de sa miséricorde, hein, qu'on n'a plus besoin du paradis, du coup, hein. Ce serait terrible pour ces gens-là. Vous voyez, donc, à la fois deux choses. D'une part, il leur souhaite une peine, un travail difficile. Il leur souhaite même d'être plongé dans la mer, c'est-à-dire vraiment dans une forme de mort, hein, pour ressusciter avec le Christ à la vie. Et puis il leur souhaite aussi, au fond, d'avoir une main coupée, être boiteux ou être borgne, parce que plutôt il leur souhaite de faire l'expérience de leur propre vulnérabilité. Et du coup, on en vient au sens du mot petit, qui veut dire quelque chose de pas d'autre, mais il y a un sens qui s'ajoute. Hein. Et on va voir, ce sens est étonnant, mais il est tout à fait cohérent avec ce qu'on vient de dire. Il est tout à fait cohérent aussi avec d'autres évangiles. Mais avant de donner cet ajout, nous allons faire la pause. À tout de suite. Bonjour, nous sommes dans notre émission « Comment va ton âme ?» pour cette deuxième partie où nous parlons de Jésus et des enfants. Et donc c'est le texte de saint Matthieu que nous étudions au chapitre 18 qui rassemble d'ailleurs d'autres textes hein, du même style, hein, donc Luc chapitre 9, versets 46-48, et Marc chapitre 9, hein, versets 33-37. Donc ces trois textes, hein, ces trois ressemblent à un même type de texte, qui sont introduits toujours par la même question, hein, qui est le plus grand? Et à cette question, qui est le plus grand des disciples, hein, Jésus met un enfant au milieu d'eux, il dit voilà, le plus grand parmi vous, eh bien c'est celui qui ressemblera à cet enfant. Autrement dit, celui qui sera petit comme cet enfant. Et alors du coup, on comprend que le petit, ce n'est pas simplement celui à qui on prêche, mais c'est celui qui prêche aussi. C'est-à-dire que c'est l'apôtre. Si le bon pasteur doit aller chercher la brebis perdue, il va envoyer des ouvriers à sa vigne qui devront faire l'expérience de cette petitesse. Il faudra eux-mêmes qu'ils soient des petits pour parler à des petits. Il faudra qu'ils épousent d'abord leur misère hein, pour bien prêcher, pour faire d'abord l'expérience pour eux de la miséricorde, mais ensuite pour bien prêcher la miséricorde. Ça, c'est magnifique. Hein. Au fond, pour l'instant, on avait l'impression qu'il y avait des gens au-dessus et puis des gens en dessous. Vous voyez ce qu'on m'a appris chez les scouts, hein, par exemple, dans le salut scout, hein, vous avez ce pouce qui vient recouvrir l'auriculaire, hein, le petit doigt, et on dit bah, c'est le plus fort qui vient protéger les plus faibles. Hein, et c'est une bonne doctrine hein, de penser que si Dieu nous a donné des talents, c'est certainement pas pour s'en glorifier, mais pour être au service de ceux qui en ont besoin. Mais là, la perspective est presque inversée, ou en tout cas, elle est un peu changée. Jésus ne choisit pas ses disciples parce qu'ils sont forts. Hein. Jésus demande à ses disciples de redevenir comme cet enfant, de devenir petit, hein. D'être eux-mêmes des pauvres, pour parler à des pauvres. Hein. Sinon, ils vont faire obstacle à la miséricorde de Dieu. Et ils vont comme être ces maîtres de sagesse qui se croient meilleurs, et puis surtout qui sont des hypocrites, hein, puisqu'en fait, ils le font pas du tout. Et du coup, on va comprendre que le petit, c'est aussi le missionnaire. Hein. Alors, si on voit les choses de ce point de vue, on comprend quelques paroles de Jésus. Par exemple, quand il dit « Celui qui donne un verre d'eau à ce petit, en mon nom, hein, il aura avec lui la vie éternelle. » Si vous remplacez à ce petit, celui qui donne un verre d'eau, à ce missionnaire, c'est-à-dire à ce petit qui vient en mon nom, ben, il aura la vie éternelle, puisque ce missionnaire, il vient apporter la paix du Christ. Il vient apporter la bonne nouvelle. Il vient apporter Jésus au monde. Hein. Il vient apporter le Sauveur. Hein. Et donc, celui qui l'accueille, ben, il accueille la parole du royaume, et du coup, il obtient la vie éternelle. On comprend aussi, d'une lumière nouvelle, la finale de saint Matthieu. Donc chapitre 25, vous la connaissez évidemment tous. Hein, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais prisonnier. Vous êtes venu me voir. Hein, j'étais affamé et vous m'avez donné à manger. Hein, j'étais nu hein, et vous m'avez vêtu et j'étais un étranger mais vous m'avez accueilli. Et alors on se dit, bah en effet, c'est une bonne interprétation. Hein. Il y a vraiment des pauvres qui sont les émissaires du Christ hein, et qui sont sous le déguisement désolant du pauvre. Et Jésus, c'est Jésus qui est là, présent sous le déguisement désolant du pauvre, hein. Comme l'a bien illustré le témoignage, les écrits et la vie, en particulier de Mère Teresa. Et de tous ceux qui, dans son style, de saint Vincent de Paul, au frère Jean dans ma communauté hein, ou des personnes que vous connaissez hein, qui accueillent les pauvres à l'hospitalière du Rosaire pèlerinage du Rosaire qui va servir les malades à Lourdes hein, il illustre très bien cette manière de lire hein, la finale de Matthieu 25 mais vous vous souvenez qu'à cette finale on dit mais quand est-ce qu'on t'a vu nu quand est-ce qu'on t'a vu étrangers, etc. Et Jésus répond, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères? Alors c'est intéressant parce que le mot frère, souvent Jésus le désigne pour parler de ses disciples, hein, et notamment ses disciples missionnaires. Vous savez, quand Jésus ressuscite devant Marie, enfin est ressuscité, apparaît à Marie-Madeleine et que Marie-Madeleine veut le saisir, hein, dit ne me touche pas, mais va plutôt dire à mes frères, hein, je monte vers mon Père et votre Père. Et là, il y a plusieurs indices que les frères dont il est question on peut considérer que ce sont les apôtres. Et de fait, quand on lit la vie de saint Paul, et lui-même en témoigne, hein, il a été en prison, il a été affamé, il a été assoiffé, il a été nu. Hein, vous savez, il a été victime d'un naufrage. La seule chose qu'il n'a pas fait, c'est, dans la liste de saint Matthieu, c'est qu'il n'a pas été un étranger. Encore que, on peut dire que, à partir du moment où vous êtes envoyé, même chez vos propres frères de sang, enfin, voilà, ou même de votre religion, les juifs, et que vous leur annoncez un message que Jésus est ressuscité, que Jésus est Seigneur, ils le considèrent un peu comme étrange, hein, comme étranger. Et tout envoyé de Dieu, tout apôtre, a quelque chose d'étrange, hein, pour celui à qui il est envoyé. Et donc, il est souvent considéré comme un étranger. Et donc tous ceux qui, vous voyez, ont accueilli l'apôtre Paul, qui ont accueilli sa parole, et Paul le dit bien, qu'il n'est pas venu dans la puissance de la parole, il n'est pas venu, il est venu dans la faiblesse, hein, de la chair. Vous voyez, et il en donne la raison. Hein, il dit d'ailleurs, hein, le Seigneur m'est apparu à l'avorton que je suis. Et le saint Paul, avant d'enseigner le Christ ressuscité, il a fait l'expérience de sa propre misère. Hein, parce que Jésus lui a dit, dis donc Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et dans cette lumière du ressuscité, Paul a compris qu'il avait été atroce, hein, qu'il avait, j'allais dire qu'il était impardonnable. Et il a fait vraiment l'expérience de sa propre misère, et de sa misère matérielle comme de sa misère spirituelle. Et à ce titre, alors, il avait, j'allais dire, les qualités du coup, hein, pour devenir un petit, et donc pour pouvoir prêcher le message du Seigneur qui vient pour les petits, qui vient pour consoler les pauvres, et qui vient pas pour les riches, pour ceux qui se croient justes. Il vient pas les flatter. Et donc, sans rien changer à l'interprétation habituelle qu'on a de Matthieu, peut-être qu'il y a dans la finale de Matthieu, j'étais pauvre, j'étais malade, peut-être qu'il y a ici dans la finale de Matthieu, le programme même du disciple missionnaire, hein, du missionnaire, qu'il lui faudra passer par bien des épreuves, et qui n'est d'ailleurs pas plus grand que le maître, que si le maître a vécu cela, eh bien lui-même le vivra aussi. Parce qu'il devra guérir des malades, ben lui aussi sera passé par certaines formes de maladies. Et c'est clair que moi, je me suis toujours étonné, d'ailleurs, quand j'étais au noviciat ou durant mes études, de vivre des choses très fortes, alors que mes amis de mon âge, eux, qui étaient dans le monde, n'avaient pas l'air encore de vivre ces expériences. Et on me disait, mais ce que tu vis là, c'est assez important, parce que tu vas être appelé à recevoir des gens qui souffrent ou qui peinent, et il faut que tu passes par là pour les consoler. Et alors vous écoutez ça d'une demi-oreille quand vous vivez tout cela, mais en fait c'est assez vrai, c'est-à-dire que quand vous vous engagez dans la mission, il y a une pédagogie de l'esprit qui au début vous montre la puissance, la providence de Dieu, sa bonté, sa douceur, qui vous assure que Dieu est amour, et puis il y a une deuxième pédagogie qui vous fait passer par des épreuves, oui, qui vous éprouve, hein, et qui éprouve en particulier votre fragilité, hein, pour devenir petit, c'est-à-dire pour ne plus compter que sur Dieu seul, et être en consonance avec les pauvres à qui vous allez prêcher. Donc il y a ici dans Matthieu 25 le programme d'un missionnaire. être pauvre, être nu, être affamé, découvrir ces choses-là, dont saint Paul est le parfait exemple. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir combien la liste de saint Matthieu correspond assez bien à la liste que saint Paul lui-même fait de sa vie. Ça en est troublant. On se demande même si c'est pas Paul qui a écrit Matthieu. Donc, je plaisante parce que c'est pas du tout le même style. Mais voilà, c'est simplement. Finissons quand même par dire que dans cette finale donc revenons maintenant au chapitre 18. Là, on était au chapitre 25 de saint Matthieu. Mais au chapitre 18, dans le texte qui nous intéresse, hein, sur Jésus et les enfants. Donc quand Jésus met un enfant au milieu d'eux, il finit par dire qu'il faut vraiment bien recevoir ces petits, hein, parce qu'ils ont chacun un ange dans les cieux, hein, qui les garde. Et cet ange voit la face de Dieu. Hein. Cet ange contemple Dieu. Alors, ouais, qui est absolument magnifique, c'est ici Jésus nous affirme que les anges sont dans l'intimité de Dieu. Jusque-là, l'Ancien Testament n'avait pas été jusque-là. Et c'est la raison pour laquelle chacun de ces hommes est grand, parce que la place de leur ange est dans le conseil même intime de Dieu. Et normalement, celui qui est dans le conseil intime de Dieu, c'est celui qui a la clé, hein, du palais. Il y en a qu'un, normalement. Il a la clé, il est dans le palais du roi. Et donc, plus vous êtes intime du roi, plus vous êtes grand. Eh bien, chacun de ces petits, ils ont un ange qui prie pour eux et qui vraiment voit la face de Dieu. C'est dire l'importance de ces anges, mais aussi l'importance de ceux qui leur sont confiés. Et chacun de nous a un ange gardien qui est là pour intercéder pour nous, et puis aussi qui est l'émissaire de Dieu, hein, pour exercer envers nous sa providence. C'est important, vous voyez, l'ange, il est personnalisé, c'est pas Dieu pour tous, hein, mais là il y a un ange pour chacun, qui obéit à ce que Dieu lui dit, et donc c'est magnifique d'avoir ce bon ange pour chacun d'entre nous. Donc même si nous sommes petits, hein, Dieu nous aime d'un amour de prédilection, et il a créé pour chacun un ange merveilleux qui est vraiment dans le conseil divin, dans le conseil de Dieu, d'une part. Et d'autre part, même si nous sommes petits, il y a un ange qui nous garde, qui nous protège, qui nous aide dans notre prédication, dans nos conseils, dans la façon dont nous allons nous comporter ou répondre même de notre foi à tous ceux à qui nous sommes envoyés. Écoutez, je vous laisse avec votre bon ange. N'hésitez pas à le prier, à l'invoquer, à le remercier. À très bientôt.